Alors Jean-Claude Delalande, bonjour. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté cette interview pour ActuPhoto.com et ouvrir la rubrique Entretien avec nous. Pour commencer, j'aimerais revenir brièvement sur votre parcours. Vous avez intégré l'école de photographie de Montreuil-sous-Bois en 93.
Tout à fait.
Mais on ne sait pas du tout ce que vous avez fait avant et qu'est-ce qui vous a mené là.
Moi, je pratique la photo depuis l'âge de 18 ans déjà. Et, titre amateur, je faisais ça dans mon coin. Et j'ai trouvé un travail dans une compagnie d'assurance. Ça fait 26 ans que j'y travaille. Et en 93, j'ai eu envie de faire une formation en parallèle de mon boulot. C'est une formation qui a duré un an, qui m'a apporté pas mal de choses. À l'issue de cette formation, j'ai eu envie de montrer mon travail. Je l'ai montré pendant un certain temps, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai vu que ça plaisait, mais que bon, il n'y avait pas de retombée directe. J'ai laissé tomber pendant pas mal de temps encore. Pendant une dizaine d'années, j'ai mis mon travail un peu en sommeil, tout en continuant pendant les vacances de faire des travaux. Et c'est depuis 2 ans que je démarre pour essayer de montrer mon travail au plus grand nombre, en participant à des concours, des festivals. Et voilà. Et actuellement, mon travail commence à être plus ou moins reconnu ou apprécié de pas mal de gens.
Et donc, si on peut parler un petit peu de la jeunesse de ce travail, comment vous est venue l'idée de ce projet autour des scènes intimistes?
Au début, je prenais ma famille en photo, mes proches, mais bon, sans les mettre en scène, juste des portraits. Et à un moment, j'ai eu envie de les mettre en scène, un peu comme dans un film. Et au départ, moi, je prenais mes proches, mes amis, que je mettais en scène. Et puis, bon, vu la difficulté de les rassembler, de les réunir, je me suis dit pourquoi pas me prendre avec ma compagne ou éventuellement avec d'autres amis dans des scènes du quotidien. C'est comme ça que l'idée m'est venue, par facilité, quoi, si on peut dire.
Pour le choix des scènes, comment ça se passe?
C'est les lieux qui m'inspirent les scènes. Parce qu'en général, ces photographies que je réalise le plus, c'est en vacances. On essaie de louer des appartements ou des maisons assez vastes avec des ambiances différentes, de particuliers. Suivant le décor, la mise en scène se met en place toute seule. C'est une cuisine, ou, je sais pas, un salon, un objet appartenant au propriétaire qui peut m'inspirer une scène du quotidien.
Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la première vue de votre travail, je dirais qu'il y a deux moments de lecture finalement que j'ai pu avoir. Le premier, drôle, de sourire tout de suite à ces scènes du quotidien qui appartiennent finalement à un autre temps, ou à un album de famille, de photos presque ratées, de visages inexpressifs, ou de scènes qui deviennent complètement anodines et qui fichent quelque chose d'anodin. Finalement, on a peut-être un peu tous dans nos albums de famille des photos de ce type, avec peut-être un oncle à table qui a été surpris par la photographie et qui a ce visage peut-être complètement figé, comme si on lui volait quelque chose dans un retrait vis-à-vis de l'appareil.
Ouais. Les photos de famille m'inspirent beaucoup, les anciennes photos d'albums m'inspirent pas mal. Je crois que ça vient de ça aussi, des anciennes photos d'une époque du noir et blanc, des premières photos, ou des familles attablées aussi, ou dans des situations importantes comme des mariages, un baptême, un enterrement. Des gens qui sont aussi surpris par le photographe, ou agacés par un photographe qui serait là pour immortaliser un instant, quoi. Un peu à la Lartigue, Jacques-Henri Lartigue. J'adore ses photographies, ils m'ont inspiré pas mal.
Par rapport à cette question de l'objectif qui est toujours présent, je dirais qu'il y a comme une histoire un petit peu de trou de serrure, finalement, pour le spectateur, mais vous mettez toujours en avant cet appareil, jusqu'à finalement le mettre complètement au centre d'une de vos photographies. La présence de l'appareil, pour vous, est l'un des acteurs de vos scènes?
C'est un acteur principal, presque. Alors, c'est pour ça que j'utilise pas mal la chambre, parce que c'est un appareil qui s'impose par lui-même, qui a sa place dans l'image et en dehors de l'image.
Je disais, l'intimité est finalement la ligne dominante de votre travail, une intimité un peu crue, alors que logiquement, dans tout côté voyeur, on devrait prendre du plaisir à voir cette intimité, et votre intimité dans vos photographies nous laisse de marbre et finalement peut-être un petit peu angoissé.
Peut-être que cette intimité, elle renvoie à l'intimité du voyeur, quoi, du regardeur. Peut-être pour ça qu'il y a peut-être une gêne, peut-être que les gens s'identifient plus ou moins à leur scène de vie du quotidien. Et en même temps, je ne sais pas si le spectateur devient voyeur, mais il peut être gêné peut-être de s'identifier, de se voir à travers peut-être ces images.
D'un côté, rire de vos photographies, c'est un petit peu rire de soi en regardant, rire de ses origines, et finalement se moquer de choses vécues. C'est peut-être vraiment ça qui nous met bien mal à l'aise face à vos photos, c'est qu'on peut tout de suite s'intégrer à ces scènes qu'on a tous rencontrées à un moment ou à un autre de notre vie.
Exactement, ouais, c'est tout à fait ça.
Est-ce qu'on peut quand même parler d'humour noir à propos de vos photos?
Ouais, c'est de l'humour noir, c'est de l'ironisme, un regard assez froid sur soi et puis un peu sur les autres.
Sur l'importance des objets, j'ai cru remarquer dans certaines photographies que vous aviez des objets qui n'ont aucun danger dans leur usage courant, et que dans cette mise en scène, ils deviennent d'un coup finalement des armes totalement dangereuses. Je prends l'exemple de l'armoire en kit, il me semble d'un seul coup créer le chaos dans une pièce et finalement qui donnerait quasiment des envies de meurtre. Je pense qu'on a tous eu des envies de meurtre avec les armoires en kit. Mais...
c'est vrai, c'est assez pénible. Oui, j'utilise des objets où c'est de la manière aussi de les tenir, de les utiliser avec une certaine violence. C'est vrai que souvent dans les couples, des fois on a peut-être des fois des envies de meurtre sans arriver jusque-là. Ça peut être le marteau. d'une de mes photos, il y a une hache aussi qui traîne pas très loin, ou même la manière de prendre une bouteille ou un objet qui peut devenir tout de suite menaçant. Par
vous avez intitulé votre première section de votre site internet « Bienvenue à la maison ». Comme vous l'avez dit, ce n'est jamais chez vous, c'est une mise en scène, mais quelle est-elle cette maison que vous avez créée pour toutes vos photographies?
Ben, je ne sais pas, c'est aussi un peu ironique, « Bienvenue à la maison », c'est un peu comme un tapis qu'on met devant sa porte d'entrée, on met « Bonjour » ou « Bienvenue ». Souvent on met ça, mais bon, c'est la personne qui rentre n'est pas forcément bienvenue dans ces cas-là. Là, bon, les gens sont bienvenus, mais bon, il y a un danger, on peut dire.
Donc on arrive à cette seconde lecture dont je parlais tout à l'heure, le malaise finalement, quand on regarde plusieurs photos, comme ce qui ne marcherait pas avec deux ou trois photographies.
Ouais, isolément, les photos auraient moins de force, à part peut-être quelques-unes qui pourraient résumer à elles seules l'ensemble de la série. C'est vrai, le mal-être ou la compréhension du travail vient par l'accumulation des clichés.
Dans cette ambiance de malaise, je pense que l'élément central, s'il y en a un, c'est l'inexpression et le statisme de la figure centrale, en l'occurrence vous-même, dans ces photos, et ce regard totalement figé vers l'objectif que vous pouvez avoir dans la majorité des photos.
Ouais, c'est en même temps une complicité avec l'appareil. Je regarde droit devant l'appareil, en étant complice, en même temps en étant agacé d'être pris en photo par moi-même. Et oui, en plus, cette immobilité, j'aime beaucoup parce que j'utilise beaucoup des vitesses lentes, c'est-à-dire des fois de plusieurs secondes. Et j'aime bien rester comme ça figé pendant quelques secondes et de faire une sorte de corps avec le moment, de fusion avec le moment, avec l'instant, comme ça. Pendant ces quelques secondes, je trouve ça assez passionnant.
Dans toute votre première série que l'on peut observer sur le site, on assiste à des scènes de couple, mais étrangement, d'un couple où on a deux individus complètement solitaires, qui n'échangent jamais un regard, qui peuvent se toucher dans plusieurs photos, mais même cette action de se toucher devient tout sauf tendre.
Ouais, c'est un peu la solitude des êtres, des couples, hein, qui est peut-être réelle quand même dans certains cas, l'incommunicabilité entre les êtres, mais plutôt dans des couples qui ont déjà plusieurs années derrière eux. C'est un peu une critique de cet état, mais c'est un peu de la parodie, un peu de l'amusement quand même, c'est du deuxième degré même là, et j'espère que tous les couples ne sont pas comme ça au bout d'un certain temps.
Autre point qui me semble tout à fait important, étrangement, ce qui devrait être extrêmement drôle nous glace. Je parle par exemple de vous jouant au cricket dans le jardin, de vous portant des chaussons à tête de tigre avec un chat sur les genoux, et finalement, ce qui paraît le plus drôle, ces chaussons, est en tel désaccord avec votre expression qu'on perd pied dans ce rire, et ce que j'appelais ce rire finalement très jaune qu'on peut avoir en regardant par exemple cette photo.
Ouais, c'est un peu j'ai l'image de Buster Keaton, un peu du comique un peu impassible comme ça face à des péripéties, même Charlie Chaplin, par exemple, on le voit très peu sourire dans ses films. Quoi. C'est difficile d'expliquer exactement.
Et pourtant, un sourire changerait tout.
Ah oui, je crois que ça ne marcherait pas. S'il y avait un sourire, ça ne marcherait plus du tout. Ça tombe. C'est à la limite, quoi. C'est à la limite entre. C'est vrai que ça peut basculer de très peu dans la mauvaise photo. Quoi. Je pense qu'il y a un fil qu'il ne faut pas dépasser dans le comique ou le deuxième degré. Après, ça devient. C'est plus drôle, quoi. On sent qu'il y a des mises en scène, il faut que ça paraisse quand même plausible, qu'on sente que c'est des moments quand même plus ou moins vécus, pas tomber dans la grosse parodie, le gros gag.
Je m'amuse à parler de votre travail comme un petit peu le drame sous-jacent chez les Bidochons. Vous avez quand même un goût pour le kitsch très prononcé dans ces photos, et pour, à mon avis, le deuxième degré, le renforcer, ce côté d'un autre temps, peut-être celui de nos parents ou de nos grands-parents sur les photographies.
Ouais, les Bidochons, oui, c'est un fait rire Binet, avec Cador, etc. C'est des bonnes références pour moi. Oui. Enfin, moi, je suis quand même pas mal influencé aussi par le cinéma noir et blanc de la grande époque, comme des Billy Wilder, Frank Capra, Hitchcock, des choses comme ça, ou surtout Billy Wilder avec ce recul sur les gens, puis bon, toujours ces anciennes photos. Hein.
Une autre partie qui m'a beaucoup intéressé dans votre travail, c'est peut-être l'utilisation de votre compagne enceinte, hein. C'est-à-dire tous les moments qui sont censés être les plus tendres dans un couple, a peut-être encore plus renforcé ce côté glacial dans votre travail. On se retrouve face à une femme enceinte totalement solitaire, et vous toujours apprendre à témoin votre spectateur, peut-être plus important que votre femme à vos côtés.
Ouais, j'avais envie de faire des photos souvenirs de ces moments un peu exceptionnels que la plupart des gens rencontrent. Mais j'ai continué mon travail, quoi, même pendant cette période-là, quoi, qui n'empêche que j'ai fait d'autres photos. Mais je voulais quand même immortaliser ces moments-là dans cette continuité. Quoi. Et il fallait pas que je je le change. En plus, j'ai pas envie de changer à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison que je traite ce sujet différemment que les autres sujets.
Vous parliez de l'esthétique cinématographique. Je pense que c'est quelque chose qui ressort tout de suite de vos photographies. On voit vraiment cette question de référence au film des années 60 assez rapidement, presque par la présence de la bicyclette, le côté prendre à témoin le spectateur. Cet appareil qui ressort finalement un petit peu du champ, qui rentre dans le vôtre. Est-ce que c'est votre principe de base, finalement, de faire du cinéma ou de la narration avec ces images?
Oui, il faut qu'une image parle, raconte quelque chose. Hein, ça a moins d'intérêt ou pas du tout d'intérêt si elle ne raconte pas quelque chose. Un peu comme un film, il faut qu'il y ait un bon scénario pour qu'on apprécie un film. Ouais, je fais vraiment le cinéma me passionne, quoi. Ces lumières, puis les scénarios de l'époque qui étaient fabuleux.
Finalement, cette complicité avec la caméra ou avec l'appareil photo, elle est un petit peu morbide dans votre histoire. Parce qu'on se retrouve finalement, on parle souvent des instants choisis chez Hitchcock. Je pense qu'on peut aussi parler des instants choisis chez vous, mais de cette question, est-ce qu'il va y avoir un drame après cette photographie?
Ben, on se pose tous la question, moi-même. J'espère qu'il n'y aura pas de drame. Oui, il y a un suspense, je crois que j'essaie de monter un suspense au fil des photos et retarder comme la fin le plus longtemps possible pour que vous continuez la série. J'espère que ça se finira pas mal.
Quand je regarde toutes ces images, tous ces détails dont on parlait, tous ces objets qui sont des armes potentielles, on se demande tout de suite, est-ce qu'il y a un placard avec un cadavre à l'intérieur quelque part? Il y a ce côté assassin en puissance présent tout de suite dans ce regard figé et dans cette froideur que vous pouvez avoir, et finalement dans ces objets, comme vous disiez, tenus avec violence alors qu'ils ne sont que des objets.
Ouais, le personnage a une violence rentrée, quoi, je pense. On a l'impression qu'il va exploser d'un moment à un autre, quoi, qu'il va se passer sûrement un drame. Mais est-ce qu'il va tenir longtemps? On ne sait pas.
J'ai lu que vous aviez dit quelque part que vous aviez fait au départ ces photos pour rire.
C'est vraiment plus. Hein. Et je continue, j'essaie de genre peut-être un peu moins de moins en moins, mais au départ c'était vraiment pour rigoler, hein. Pour s'amuser entre amis, pour passer un bon moment, convivial.
Et vous créez donc des images dramatiques, figeantes, pour rire.
Voilà, c'est ça, pour rire, pour passer un bon moment, pour aussi avoir un souvenir des vacances, parce que souvent c'est des photos de vacances, et c'est pour avoir un souvenir de vacances dramatique.
Donc sur cette mise en scène, je pense que vous gérez derrière la caméra et devant la caméra. Il y a vraiment ce côté, encore une fois, hitchcockien de ce que vous créez, avec quasiment un double toujours présent, qui va jusqu'au triple. Je vois une photo en particulier où vous prenez votre compagne en photo devant une église et vous regardez un autre appareil photo.
Bah, toujours cette complicité qui est avec... ça devient même plus peut-être un appareil. L'appareil peut être moi. C'est vrai que je me regarde à travers l'appareil, mais je suis en dehors du cadre, en train de me regarder. C'est une sorte de jeu de miroir, à mon avis. Des fois, l'appareil disparaît, c'est oui, je me retrouve derrière. Ça, je me vois en train de me photographier.
Donc finalement, sur cette série, on part de quelque chose qui vous fait rire, qui nous fait rire aussi à première vue, et qui finalement, quand on s'y penche de beaucoup plus près, on regarde tous les objets qui peuvent devenir des armes, tous les objets qui rendent l'atmosphère un peu lugubre, et on ne rit plus. Est-ce qu'au final, c'est un jeu aussi de faire rentrer le spectateur dans votre atmosphère, mais de ce côté angoissant?
Ouais, sans faire réfléchir, c'est vrai que j'ai envie que, quand on a regardé la série, on se pose peut-être quelques questions un peu sur soi. Puis aussi sur moi, je me pose autant de questions que je... Parce que souvent, je suis aussi des fois surpris après, en voyant le résultat final. Parce que c'est prémédité, mais sans être complètement prémédité. Il y a toujours le hasard, l'inattendu, ou un geste qui n'est pas forcément voulu, mais qui est là en fin de compte et que je découvre en développant le film.
Et ce visage qu'on retrouve finalement dans toutes ces photographies, c'est quelque chose d'extrêmement travaillé ou c'est qu'en général, on vous trouve froid?
Non, pas du tout, au contraire. On ne me reconnaît pas du tout dans ce personnage. De toute façon, qu'on m'apprécie.
Donc pas d'envie de meurtre sous-jacente?
Non, pour l'instant, ça devrait aller. Je vais me contenir.
Donc sur la partie, on va passer à une autre partie, la partie journal intime, qui est à mon avis tout autre, qui a une autre atmosphère. Vous présentez un ensemble d'autoportraits au pluriel dans chaque photographie, complètement surprenant, où vous représentez vous avec un autre vous ou d'autres vous dans une intimité complètement énigmatique. Donc déjà, première question, qui c'est cet autre vous ou ces autres vous?
J'ai voulu continuer un peu sur l'aspect solitude des personnages. Le personnage de l'ancienne série, c'est peut-être trouver un copain, quoi, un ami tout simplement, avec lequel il fait des choses qu'il pouvait peut-être pas faire, ou il avait moins de complicité avec les personnes, quoi, le personnage de la première série, des couples. Moi, je les sens beaucoup plus proches, tous les deux, ou tous les trois, qu'avec la compagne, quoi.
Exactement, c'est ce qui est ressorti tout de suite dans la confrontation des deux thèmes. On voit tout de suite qu'il y a presque du sourire, finalement, dans les autoportraits, avec une complicité avec un autre vous-même qui était complètement absent. Et d'ailleurs, votre compagne disparaît complètement de cette série, donc on se demande tout de suite ce qui lui est arrivé, et surtout que la première série termine par un enterrement. Avez-vous détruit votre compagne et vous vous êtes réconcilié avec d'autres vous-même?
Non, elle est toujours bien là, elle est bien en vie. Et je continue toujours la série avec le couple, mais c'était un petit passage, c'était un écart de... une infidélité à la première série. Mais je vais redevenir sérieux, je crois.
Donc dans ce journal intime, on voit un couple complètement hors norme, étrangement. Vous dansez avec vous-même, vous vous massez. Vous jouez à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Vous vous faites vos ourlets, vous vous donnez à manger, vous vous bordez le soir. Étrangement, on se dit « Est-ce un couple ? Est-ce un enfant avec sa maman ? Est-ce une personne sénile avec quelqu'un qui s'occupe de lui ?» On est complètement dans cette dépendance de quelqu'un d'autre. Et vous imaginez ce quelqu'un d'autre ?
Non, c'est tous ces personnages que vous venez de citer, je pense. C'est la mère, c'est la compagne, c'est un proche, un frère, une sœur... C'est tous ces personnages réunis qui forment une sorte d'entité, comme ça, irréelle.
Alors j'ai cru remarquer que dans cette série, le personnage le plus présent, c'est-à-dire qu'il y a toujours un ou deux autres vous plus fantomatiques et un plus fixe, celui plus fixe, on s'occupe de lui, et celui fantomatique s'occupe de vous. Est-ce qu'il y a dans ce côté une image, simplement dans ce portrait, de l'idée que peut se faire quelqu'un de son idéal autre, et qui finalement quelqu'un d'autre, mais qui serait à sa disposition?
Oui, c'est tout à fait ça, ouais. C'est le compagnon idéal, ou la compagne idéale, hein, qui s'occupera de vous constamment, aux petits soins, pour tout, ça disponible.
Et ce compagnon idéal, c'est un autre vous-même.
Voilà.
C'est complètement étrange.
Parce que je crois que ça n'existe pas. Il faudra l'inventer, je l'ai inventé.
Donc c'est finalement votre jumeau, votre triplé parfait. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un hémisphère droit, d'un hémisphère gauche, d'un... De ce côté, il n'est tellement pas vous-même, mais c'est ce que vous aimeriez avoir.
Non, parce qu'au bout d'un moment, ça doit être un peu chiant quand même. D'avoir quelqu'un toujours sur son dos, je crois. Là, ça sera un étouffement plutôt que...
Dans ce côté jeu, dans ce côté humour, encore une fois, de placer un être fantomatique à votre image qui est un idéal, une mère, un enfant, ou quelqu'un qui prend simplement soin de vous, ce n'est pas simplement une image beaucoup plus terne sur la question de la solitude, encore une fois.
Ouais, c'est la solitude poussée à l'extrême, quoi. Je pense que c'est la solitude totale. Là, le personnage, en définitive, est complètement seul. Il s'imagine qu'on s'occupe de lui, mais en vrai, je pense qu'il est complètement seul.
Et donc, pour terminer, vos deux séries se terminent par un enterrement. Est-ce qu'à chaque fois, c'est pour dire que tout se termine à ce moment-là et que vous allez entamer autre chose?
Non, pas forcément. Ça peut être un passage. Ce passage va être... J'allais dire en au-delà, mais autre chose.
Dans vos collaborations, le journal La Croix est têtu.
Ah, j'en étais sûr qu'on allait y venir.
Je trouve ça extraordinaire. Il faut que je comprenne.
C'est des hasards, en vrai. C'est des hasards. Mais bon, ces hasards m'ont bien plu. Je trouve que ça se complète.
Ça se complète, étrangement, ça va complètement avec votre travail. De se dire, il y a ce côté vieille France, si on veut, et ce côté complètement décalé de têtu.
Bah c'est ça, c'est un peu moi.